Bonjour Didier Pilon, en compagnie de Mathieu Ardonneau, je suis heureux de vous retrouver dans les studios de Radio Fidélité pour que nous passions une petite heure ensemble, et j'allais dire en compagnie d'un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, pourrait-on dire, tellement ce concerto est pour moi emblématique. C'est peut-être le plus beau, à mes oreilles en tout cas, concerto pour piano et orchestre de toute l'histoire de la musique. C'est celui qui quitte le monde de Mozart et de Haydn, qui quitte le classicisme pour rentrer de plein pied dans le romantisme, bien qu'on soit peut-être 20 ans avant la naissance véritable du romantisme. Bref, c'est le fameux 5e concerto pour piano et orchestre de Beethoven. Ce concerto qu'on a baptisé l'Empereur, ou concerto empereur, tellement il représente finalement la quintessence de l'art de Beethoven. Alors ça n'est évidemment pas Beethoven qui a donné ce nom de concerto, c'était son 5e concerto pour piano et orchestre, mais il est devenu tellement magistral, tellement important même dans l'histoire de la musique, que tout naturellement on le baptise encore du concerto empereur. C'est une œuvre que Beethoven a travaillée pendant de nombreuses années parce qu'il y avait la guerre. Il y avait la guerre justement entre Napoléon et l'Autriche. Et si la composition avait commencé dans les années 1808, on a entendu pour la première fois ce concerto simplement en janvier 1811. Et c'était à Leipzig. Et c'était vraiment très important parce que il rassemblait le monde finalement germanique. La première eut lieu à Leipzig et la deuxième après va avoir lieu à Vienne. Et il faut dire que ce concerto était dédié à quelqu'un de très important qui était l'archiduc Rodolphe d'Autriche. L'archiduc Rodolphe, comme son nom l'indique, eh bien était un fils d'un empereur qui était celui qui s'appelait Léopold II. Et Léopold II avait eu plusieurs enfants, et le dernier était évidemment ce Rodolphe, qui va devenir d'ailleurs archevêque. Et c'est pour lui que Beethoven écrira une très belle messe, à l'occasion, en quelque sorte, de son ordination épiscopale. Mais ce qui est certain, c'est que c'est Rodolphe, l'élève de Beethoven, qui va créer ce concerto, parce que c'est un excellent élève, et que Beethoven, malheureusement, ne peut plus physiquement jouer ses œuvres. La surdité a frappé, et s'il avait encore essayé de créer le 4e concerto pour piano et orchestre, malheureusement, Beethoven est dans l'incapacité totale de jouer ce concerto devant tout le monde. Et c'est pour ça que c'est vraiment pour Beethoven un crève-cœur, en quelque sorte. Et il va être obligé de faire une chose qu'il n'avait jamais faite jusqu'à présent, c'est qu'il va écrire la fameuse cadence du premier mouvement. Vous allez l'entendre dans quelques instants. C'est quoi une cadence? Normalement, c'est une sorte de respiration qui permet au soliste, en l'occurrence le pianiste, eh bien, d'improviser sur des phrases du premier mouvement et de jouer comme ça ce qu'il veut tout seul pendant que l'orchestre se tait. Et puis il y a une sorte de code qui est très facile avec des trilles. Première trille, eh bien, vous savez où les notes vibrent, eh bien, ça veut dire attention, on va reprendre, du coup l'orchestre se prépare. Et à la deuxième trille, un peu plus, quelques 30 secondes ou 40 secondes après, l'orchestre reprend. Eh bien, jusqu'à présent, Beethoven n'écrivait pas les cadences de ses concertos parce qu'il laissait l'interprète, parfois lui, mais parfois d'autres, justement, improviser. Et là, comme il est sourd, il ne peut absolument pas improviser, donc il va écrire la cadence de ce premier mouvement, vous allez entendre tout à l'heure. Alors, ce concerto, je vous l'ai dit, il est immense par l'ampleur de l'orchestre, par la durée du concerto, 40 minutes en quelque sorte, mais il est aussi immense parce que, je vous l'ai dit, il passe du monde classique au monde romantique. Et pourquoi on a le sentiment, là, quand on écoute cette œuvre, eh bien, que le piano est en quelque sorte opposé à l'orchestre. Il ne dialogue pas comme il le faisait du temps de Mozart et de Haydn. Là, il s'oppose et c'est en cela qu'on a vraiment la vision romantique du soliste qui est seul face aux autres et face au monde. Et donc ce concerto est véritablement pour moi l'archétype du romantisme, même si encore une fois, le romantisme, on le fait naître en gros en 1830 avec Victor Hugo. Mais ce qui est certain, c'est que Beethoven est un visionnaire et c'est en cela que c'est un génie immense et il annonce tout le 19e siècle. Et j'avoue que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps ce concerto que je connais, mais je l'ai réécouté et je me suis dit, mon Dieu que c'est beau, j'ai envie d'en faire profiter tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de vous le proposer tellement il est beau ce concerto. Alors, il faut bien comprendre aussi qu'on l'appelle l'empereur parce qu'il y a un côté martial, il y a un côté guerrier. C'est normal, parce que je vous l'ai dit, c'était la guerre entre l'Autriche et Napoléon et la France, et les Français ont gagné, et les Français occupent Vienne. Et Beethoven, il est ulcéré. Il voit même à un moment donné un officier français, il faut qu'on le retienne parce qu'il a envie de lui casser la figure, et il lui dit « Si j'étais général et pas compositeur, il y a longtemps que vous seriez parti. » Mais évidemment, on ne va pas se fâcher quand on connaît évidemment comment est Beethoven. Donc le premier mouvement, il a ce côté justement guerrier, parce que Beethoven n'en peut plus finalement de cette occupation, et c'est à cause de cette même occupation des troupes françaises à Vienne, eh bien que le concerto ne sera pas créé tout de suite et qu'il faudra attendre 1811 pour qu'on entende pour la première fois ce concerto qui est encore une fois peut-être le plus, comment est-ce que je pourrais dire, le plus ouvert, le plus grand, le plus rayonnant. Et il faut dire que à lui tout seul, déjà le premier mouvement, il a 600 mesures, ce qui est énorme. Ça veut dire que c'est quasiment la moitié du concerto. C'est presque une demi-heure. Et il faut dire qu'il fait appel à un immense orchestre avec, encore une fois, un orchestre qui est tellement important qu'on parle presque, non pas d'un concerto, mais d'une symphonie concertante avec le piano. Mais je vous l'ai dit, le pianiste s'oppose en quelque sorte à l'orchestre. Et c'est ça qui fait peut-être le plus grand concerto moderne, qui va annoncer ce Liszt, qui va annoncer Brahms, qui va annoncer Mendelssohn, et qui va annoncer évidemment tous les autres. Il y a vraiment le meilleur de Beethoven à l'intérieur de ce concerto, puisque je rappelle qu'il est composé à peu près au moment où Beethoven avait déjà écrit la 4e et la 5e symphonie. Donc il a le meilleur en quelque sorte de l'orchestre ici. Et on dit, le grand musicologue Alfred Einstein disait justement, c'est l'apothéose du concept militaire de la musique de Beethoven, en raison de ses rythmes martiaux, de ses thèmes agressifs, de ses motifs triomphaux et de sa nature souvent proclamatoire. Et on comprend ça parce que quand on écoute ce que disait Beethoven à cette occasion, quand il parle justement de la création du concerto, il dit qu'il a souffert véritablement de l'occupation de Vienne. Et il le dit justement, Beethoven, « Nous avons vécu durant ce laps de temps dans une gêne vraiment opprimante. Le cours des événements dans l'ensemble a eu chez moi sa répercussion physique et morale. Je ne parviens même pas encore à jouir de cette vie à la campagne si indispensable pour moi. Rien que des tambours, des canons, des misères humaines de tout genre. » Et on comprend finalement, c'était en 1809, que l'état d'esprit dans lequel était Beethoven. Alors je crois que j'ai assez parlé maintenant et j'ai envie de vous faire découvrir ce magnifique concerto numéro 5 pour piano et orchestre de Beethoven dans une très belle version dont je vous reparlerai dans quelques instants.
Thank you.
Entendre le premier mouvement de ce magistral concerto pour piano et orchestre numéro 5, opus 73, baptisé L'Empereur de Beethoven, œuvre absolument magnifique, dans une très belle version qui est due à une pianiste espagnole que j'ai eu la chance d'entendre, qui s'appelle Alicia de la Rocha. Elle est avec l'Orchestre symphonique de Berlin, sous la direction également d'un chef qui était inspiré, qui s'appelait Ricardo Chailly. Et on sent toute la tension de cette œuvre. Et pourquoi je vous parle d'Alicia de la Rocha? Parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer. C'est un très beau souvenir. C'était au moment où, il y a une quarantaine d'années, il y avait des magasins, les magasins Gilmore, qui étaient une sorte de grand magasin, je cherchais le terme, et qui étaient aux États-Unis. Et il avait décidé, il était né Gilmore à Kalamazoo, qui est une petite cité charmante, pas très loin de Chicago, et il avait décidé de créer un festival de piano. Donc tout de suite, ça c'est les Américains, ils avaient fait appel aux plus grands, ils avaient demandé à des volunteers d'organiser ce festival. Moi j'ai eu la chance d'y aller en tant qu'observateur, parce qu'on espérait à un moment donné mettre ce festival, pourquoi pas en France et en Bretagne notamment, mais ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, moi j'ai eu la chance d'être logé chez des riches Américains qui servaient en même temps de bénévoles donc pour ce concerto. Et c'est à cette occasion-là que j'ai eu l'immense chance d'entendre Alicia de la Rocha interpréter une autre œuvre que celle-ci. Et j'étais vraiment heureux de trouver ce très beau coffret où on retrouve les 5 concertos pour piano et orchestre interprétés donc par Alicia de la Rocha et l'Orchestre symphonique de Berlin, sous la direction de Ricardo Chailly. Donc je vous propose de replonger dans ce magnifique concerto pour piano et orchestre, dont on va enchaîner le deuxième et le troisième mouvement, qui sont, encore une fois, qui font pratiquement la même durée que le premier mouvement. Le deuxième, là encore, est d'un romantisme absolument merveilleux, ce deuxième mouvement. Il est beau, enfin, je trouve vraiment là qu'on ressent toute la grandeur d'âme de Beethoven, toute la force qu'il possède et qui va, vous allez voir, nous emmener, pour moi, sur les traces du romantisme, je ne peux pas dire autrement. Et ensuite, il va s'enchaîner, vous allez voir, très, très magistralement, avec le troisième mouvement, qui est un thème plus rapide. Et vous allez voir comment on passe du 2 au 3 très facilement. C'est pour ça que je ne voulais absolument pas couper entre ces deux mouvements. Et vous allez donc pouvoir entendre maintenant ce deuxième et ce troisième mouvement, qui sont véritablement, là encore, magnifiques. C'est pour moi des œuvres absolument sublimes qu'a écrit Beethoven et dont nous allons maintenant pouvoir entendre cette œuvre avec, encore une fois, écouter les tonalités de ce concerto, écouter la manière dont l'instrument piano joue, relie, attaque parfois l'orchestre avec cet adagio un peu moco, comme on dit, avec une belle attaque, et ensuite un rondo qui est un allegro appassionato, ma non troppo. Autrement dit, c'est un rondo passionné, mais pas trop, parce que Beethoven veut justement rester dans la raison. Mais c'est pour moi peut-être le deuxième mouvement qui est encore plus attachant, qui est encore plus beau, parce que vous allez voir, c'est comme une sorte de méditation très simple. On a l'impression d'être au clair de lune, sans jeu de mots, et vraiment le piano là se fond avec l'orchestre. C'est vraiment une symbiose absolument extraordinaire. Alors que le troisième mouvement, lui, il abandonne le côté divertissant et il se rapproche vraiment d'une chose très importante avec une certaine élégance. On va dire que la main droite, elle joue quasiment dans la mesure 3-4, tandis que la main gauche, elle l'accompagne dans une autre, presque en 6-8. C'est vraiment cette opposition entre les deux mains qui provoque le dynamisme, en quelque sorte, de cette mesure. Et vous allez voir que c'est une écriture particulièrement intense. On dit que Beethoven avait récupéré un nouveau piano, et c'est justement comme ça qu'il a peut-être eu l'idée d'utiliser au maximum les possibilités du piano de l'époque. Je rappelle qu'il n'avait pas les grands pianos de concert, hein. C'était encore des pianos fortés, mais il a peut-être déjà annoncé le piano moderne avec un orchestre qui est puissant et qui est dansant dans le dernier final. Bref, j'ai trop parlé, je vous propose maintenant de retrouver très vite le deuxième et le troisième mouvement du concerto numéro 5 pour piano et orchestre de Beethoven dans la magnifique interprétation très transparente, très lumineuse, mais très puissante quand même, de cette grande pianiste qui était Alicia de la Rocha avec l'orchestre de la radio de Berlin sous la direction de Ricardo Chailly.
Thank you. Thank you.
En compagnie de Mathieu Ordonneau, j'ai été heureux de vous faire redécouvrir, réentendre, ou peut-être même découvrir tout simplement, ce sublime concerto pour piano et orchestre de Beethoven, qui est le numéro 5, le cinquième, le dernier des compositions pour piano et orchestre de Beethoven, qui porte l'opus 73 et qui porte le sous-titre tout à fait mérité de l'Empereur. Encore une fois, je le redis, ça n'est pas du tout une allusion au personnage historique de l'époque, mais c'est parce que c'est celui qui règne sur tous les autres, il n'y a rien à faire. Ce magnifique concerto qui a été créé, je vous le rappelle, en novembre 1811 et qui est absolument superbe. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à retrouver ces interprètes, Alicia Della Rocha, Ricardo Chailly, et que vous aurez encore, pourquoi pas, l'occasion de réécouter ce magnifique concerto pour piano et orchestre.